Bonjour Jacques Dallest, merci d'être sur le plateau, magistrat honoraire. Bonjour. Vous avez été juge d'instruction, procureur de la République, procureur général. On a beaucoup parlé il y a quelques instants du Paul Cold Case, affaire non résolue de Nanterre. Vous avez été à l'origine de la création de ce Paul Cold Case. Je présente donc votre ouvrage sur les chemins du crime, paru aux éditions Marie, avec une préface que je conseille, de Martine Monteil, qui a été la première femme à diriger la police judiciaire et qui était venue s'en expliquer, évidemment, sur les plateaux de BFM TV. Première question, avant de rentrer dans le détail de ces 42 affaires que vous évoquez, parce qu'il y a plein de choses intéressantes, pourquoi vous écrivez ce livre aujourd'hui ?
Alors, j'en écris d'autres, peut-être parce que j'ai envie de vider, me vider l'esprit, vider la tête, mais surtout aussi d'expliquer à mes concitoyens, qui pour certains d'entre eux seront peut-être un jour jurés de cour d'assises, ce qu'est un crime de sang et quel est le processus judiciaire qu'ils auront peut-être à juger et à apprécier.
Ça, c'est quelque chose sur lequel je voudrais qu'on revienne dans un instant. On a vraiment l'impression que vous nous mettez dans cette position de juré d'assises qui est extrêmement impressionnant. Mais avant cela, vous dédiez ce livre aux victimes, de façon générale, et notamment à la petite Maëlys, assassinée par Nordal Le Lannais. C'est votre dernière affaire, ce que vous expliquez. Et voici ce que disait, au moment du procès, Maître Fabien Rajan. C'était l'avocat des parents de Maëlys. Voici ce qu'il disait sur vous.
Ces réquisitions sont lourdes, mais elles sont logiques et attendues. Je crois que Monsieur le procureur général, avec le ton qui est le sien, sans excès sur la forme, sans excès non plus sur le fond, a requis la peine juste.
La peine juste, les mots justes, c'est ce qu'il y a de plus dur quand on doit s'exprimer dans ce type de situation.
Oui, parce qu'on est tous envahis par l'émotion, que ce soit procureur, avocat général, avocat de la défense, et il faut essayer de trouver, de garder une certaine sérénité pour proposer une solution, une explication, et en ce qui me concernait, de proposer une peine.
Oui, c'était d'ailleurs pour raconter un peu les coulisses de votre réquisitoire dans ce livre, la façon dont c'est difficile, la façon dont vous le vivez pendant, vous essayez de pas vous emporter. C'est assez touchant.
Nous restons des êtres humains parce qu'on pense toujours au magistrat, un froid, un peu distant, hautain, et malheureusement ça peut être le cas.
Mais en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais c'est souvent l'image qu'on a.
Et oui, parce que le magistrat doit garder son impartialité, sa maîtrise des choses. Mais il ne faut pas oublier que ça reste, nous restons des êtres humains avec, encore une fois, nos émotions, nos erreurs, nos maladresses. Voilà, et je crois qu'il faut le rappeler à nos concitoyens aussi.
Alors, cela dit, c'est vraiment une affaire d'homme, hein, parce que c'est le criminel est un homme. Vous donnez quelques cas de femmes, alors les femmes dont vous parlez, elles ont toutes plein de raisons en réalité, puisque c'est souvent dans le cadre familial. Ouais. Et puis l'enfer, c'est la famille, puisque l'essentiel de vos meurtres, il se passe en famille.
Oui, c'est-à-dire une grande majorité des homicides sont des homicides de proximité, des homicides familiaux, où là, c'est un déchaînement de violence du mari sur son épouse, sur les enfants, et c'est ce que nos concitoyens, là aussi, peuvent rencontrer, plus que le tueur en série ou le tueur à gages.
Il y a quelque chose qui est à la fois passionnant et effrayant, c'est à quel point, dans ces affaires, ce sont des gens ordinaires. Pardon, des gens comme vous, comme Laurent, comme moi, qui, à un moment, deviennent extraordinaires dans la violence, dans le passage à l'acte. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez décrypté, analysé ce qui fait la différence entre quelqu'un qui passe à l'acte et quelqu'un qui ne passera pas à l'acte ? Est-ce qu'il y a quelque chose ?
Non. Je crois que Laurent Valdiguier le sait bien aussi. Qu'est-ce qui déclenche le passage à l'acte ? C'est le grand mystère. Et même après un certain nombre d'années d'exercice, je me pose toujours la question, pourquoi une personne, le matin, avec plein de projets, deviendra meurtrière l'après-midi ? Alors, il peut y avoir l'enfance, des problèmes psychologiques, personnels, mais il y a ce grand basculement suite à une phrase malheureuse, quelque chose qui déclenche. Et tout être humain, je crois, et surtout les hommes, détiennent un potentiel de violence et d'agressivité qui explose par moment.
C'est vrai que c'est le mystère de tout procès. À la fois, il y a des cas où vous expliquez bien que le boulot du juge d'instruction, c'est de voir à quel point ça remonte à loin. Et puis, il y a d'autres cas où il n'y a pas d'explication. Mais ce que j'ai apprécié dans votre livre, au-delà de la technicité du droit et tout ça, c'est que vous dites souvent que compte pour vous votre impression. Et oui. A fortiori, votre première impression quand il y a quelqu'un qui rentre.
L'impression qu'on a comme juge d'instruction, quand on voit et on devra questionner un individu, l'impression qu'on peut avoir aussi au moment du procès sur l'accusé. Alors l'impression, elle ne fait pas tout. Ça renvoie aussi à l'intime conviction du juge. Certains font bonne impression, peuvent être de sinistres individus, et au contraire, ceux qui ont une sale tête peuvent être des gens finalement ordinaires et pas si violents que cela. Mais c'est vrai, nous restons encore une fois des êtres humains. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle remplacera les magistrats, ce qui serait peut-être pas forcément souhaitable. Et là, il n'y aura plus de, d'impression. Ce sera très objectif.
Vous dites l'impression. Procès de Cédric Jubilard en septembre, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'aveu. Est-ce que le fait qu'on puisse avoir une impression fait qu'on a aussi un trajet judiciaire différent par rapport à ce type de personnes?
Oui, alors, de toute façon, l'impression, c'est une chose, mais ce n'est pas ça qui va fonder une décision. L'examen d'un dossier, les éléments à charge, à décharge, on reste aussi sur un travail rationnel, relativement scientifique, qui doit être cartésien, je dirais. L'impression ne fait pas tout, mais c'est quand même les jurés qui auront à décider dans l'affaire Jubilard ce qu'ils penseront de la culpabilité de l'intéressé, et dans leur fort intérieur, ils devront trouver une explication, une solution, et là, on retombe sur l'impression.
Vous avez quand même un cas de quelqu'un qui a fait exploser sa femme dans une voiture, où là, il n'y a pas d'aveu, il n'y a pas vraiment de preuves, il n'y a pas d'ADN au sens, comme on l'entend tout le temps. Et vous dites que là, vous aviez un faisceau. Oui. Expliquez-nous ce que peut être un faisceau d'indices à la place d'une preuve tangible.
Faisceau d'indices, faisceau de présomption, c'est quand on n'a pas d'aveu, de preuves absolument déterminantes, mais on a un certain nombre d'éléments, souvent matériels, qui juxtaposés amènent à une conviction. C'était exactement ce qui s'est passé avec cet individu, j'en cite d'autres, souvent un peu psychopathe, très froid, pas d'empathie, et il faut débusquer cette vérité, et on va rechercher dans le dossier ce qu'il y a contre ces personnes. C'est le faisceau d'indices.
42 meurtres dans votre dernier ouvrage. Moi, j'ai trouvé deux affaires dont je me suis dit, je sais qu'il y en a une, parce que je vous entends le dire, mais dont vous aviez sans doute, pour des raisons différentes, envie qu'elles aboutissent. Il y a la disparition de Muriel Théron, cette jeune lycéenne lyonnaise à Lyon, oui. Qui est retrouvée violée et tuée. Et puis aussi la tuerie de Chevaline. Vous êtes au Savoyard, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que ce sont deux affaires qui, pour des raisons d'ailleurs, dont peut-être vous allez nous parler, mais font qu'il y a un prisme particulier pour quelqu'un qui est, comme vous, habitué à des situations aussi exceptionnelles, aussi dramatiques, parfois aussi morbides?
Bien sûr, malheureusement j'en ai connu d'autres, comme beaucoup de mes collègues. 1993, Muriel Théron, l'affaire est toujours en cours au pôle de Nanterre. J'étais le premier juge d'instruction, et c'est une affaire qui me reste beaucoup en tête. 2012, c'est l'affaire de Chevaline, une affaire très différente, et on est toujours sur une énigme. Qui est, quels sont les auteurs? Alors on peut espérer qu'un jour la vérité éclatera, mais c'est un long cheminement, et je pense toujours aux proches, aux parents de la petite dont la maman est décédée, de la petite
Muriel.
La famille, les familles des victimes, c'est se dire, elles sont dans des attentes pour l'une, ça fait plus de 30 ans quand même. Et la justice se doit de les écouter, d'aller vers elles. Souvent, les victimes se plaignent que la magistrature, les magistrats soient trop lointains, ne soient pas accessibles. Faire preuve d'humanité malgré la charge de travail, c'est aussi un combat permanent, et il faut que les magistrats s'imprègnent de cela.
C'est vrai que vous avez été à l'initiative du pôle Colcaise, que tout le monde salue aujourd'hui pour ses réussites, sa compétence. Est-ce que vous ne pensez pas que certains crimes, c'est vrai qu'on balaye tous les crimes dans l'environnement familial qui sont assez faciles en réalité à résoudre. Est-ce que vous ne pensez pas que face à certaines scènes de crimes où on va d'entrée dans les 48 premières heures éliminer les pistes familiales, les pistes faciles, il ne faudrait pas une expertise des juges d'instruction qui soit, disons, un peu plus spécialisée que le hasard de la désignation?
Alors maintenant, il y a
terrorisme,
des
terrorisme, narcotrafic, des choses plus spécifiques.
Voilà. Il y a maintenant des magistrats spécialisés pour les affaires anciennes, les fameux cold cases.
Oui.
Tout magistrat de n'importe quelle ville peut être saisi d'un dossier. Le juge qui interviendra après le procureur, il faut qu'il puisse avoir une vision à la plus neutre possible de l'affaire. Pas d'a priori, pas de... Il y a trois situations. Il y a l'homicide clair, il y a la disparition de personne et il y a le décès suspect. C'est le pire des choses. Vous en avez parlé avec l'affaire Céline Givoire, où là, on peut vite partir sur une mauvaise piste et on ne revient plus en arrière. C'est un suicide, c'est un accident et en fait, c'était un meurtre. Donc, si on a l'esprit libre de tout a priori, c'est un gage de réussite et ce n'est pas toujours simple.
Est-ce qu'aujourd'hui, alors, la création du Paul Cold Case, mais aussi les progrès de la police scientifique font... il y a d'autres éléments, mais font qu'on aura moins de tueurs en série parce qu'on arrivera à arrêter les séries avant que ça devienne une vraie série. Est-ce que c'est possible?
Peut-être. D'ailleurs, on ne débusque beaucoup moins de tueurs en série ces derniers temps, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Pensons à toutes les disparitions, qui sont pour certaines des disparitions criminelles. Cela dit, on a un certain nombre d'assassins qui laissent des traces derrière eux, qui ne le laissaient pas dans le passé. Pourquoi? Le téléphone portable, les cartes, la vidéo. Et aujourd'hui, tout individu peut à un moment être dénoncé, on l'a vu dans les affaires récentes, par la propre technologie qu'il porte. Ça, c'est une belle aide à l'enquête. Dans les années 80, 90, ce n'était pas le cas. D'où le grand nombre de cold cases de cette période.
Quel conseil vous donneriez à un accusé entre le n'avouez jamais, ouais, qui est quand même souvent le cas, et excusez-vous?
Eh ben, le conseil que je lui donnerais, c'est de dire ce qu'il a envie de dire, bien sûr, mais de réfléchir, s'il est bien coupable, évidemment, à des aveux, faute avouée, t'as moitié pardonné. C'est assez vrai en cour d'assises. Les jurés sont très sensibles à un accusé plein de contrition, qui dit « oui, j'ai fait ça pour telle raison ». S'il se mûre dans ses dénégations, ça peut être lourd de conséquences pour lui. Aller faire quelques pas vers la vérité, vers les jurés, c'est toujours bien apprécié par ceux-ci. Il faut qu'ils y pensent si possible.
Vous y répondez en partie, mais quel conseil vous donneriez aux citoyens que je suis qui se retrouveraient en tant que juré d'assises?
De se documenter, de lire, de comprendre comment fonctionne la justice. Ces personnes vont être plongées dans un drôle d'univers, ouais, extrêmement lourd. Pendant 3 semaines, les jurés se sont plongés dans l'affaire Maïlys, qui était très lourd pour eux. Et donc, de réfléchir aussi, la justice, ce n'est pas Yaka Faucon, c'est pas la justice du café du commerce, c'est d'essayer de peser le pour et le contre. C'est une redoutable tâche qui leur est demandée.
J'ai une dernière question avant de vous libérer, de clore cette émission. Vous avez vu des gens déchiqueter à la Kalachnikov quand vous étiez en poste à Marseille. Vous êtes penché sur le corps sans vie du préfet Erignac. Vous avez lu des descriptions de choses extrêmement compliquées. Est-ce qu'à titre personnel, vous dites c'est aussi une forme d'exutoire, mais comment on arrive à... Question de journaliste qui n'a pas vu cela, mais comment on arrive à surmonter cela, à travailler et à se dire pendant 10, 20 ans, 30 ans, c'est ma vie, c'est mon quotidien et c'est mon devoir?
On s'endurcit, forcément. Je me suis endurci, mais comme beaucoup de mes collègues. Mais j'ai pas eu toujours des nuits faciles. Mm-hmm. Quand vous êtes à 1h du matin sur une scène de crime épouvantable, si quand vous vous couchez, vous avez encore beaucoup d'images qui vous restent. Et je crois que c'est presque naturel. Il faut pas que ça vous envahisse, sinon il vaut mieux changer de fonction. Voilà, cette rencontre permanente avec la mort brutale, c'est le lot commun des juges, des procureurs aujourd'hui.
Merci beaucoup Jacques D'Aest. Avec Laurent, on renvoie les téléspectateurs. Laurent qui m'a prêté son exemplaire. Sur les chemins du crime, merci d'avoir aidé.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Laurent.